Ma thèse que j'ai soutenue en 2008, donc s'intitulait Marseille, capitale du crime, histoire croisée de l'imaginaire de Marseille et de la criminalité organisée. Et j'ai travaillé sur la période allant de 1820 à 1940, donc vraiment une longue période, enfin, pour de l'histoire contemporaine, on va dire. Et disons que le projet, c'était d'abord de faire une histoire de la criminalité, s'inscrire dans ce champ-là, qu'on peut considérer comme un domaine plus largement de l'histoire judiciaire. Enfin, c'était ça, disons, mon ancrage au départ, hein. Travailler sur les sources judiciaires pour faire de l'histoire sociale. Au départ, c'était vraiment cette optique-là. Mais croiser ça avec une histoire des imaginaires criminels. Et puis m'intéresser à Marseille parce que à ce moment-là, l'histoire sociale de Marseille était surtout vue sous l'angle de l'histoire des élites, de l'histoire économique finalement et donc des élites économiques, mais pas tellement des milieux populaires. Et il y avait un certain nombre de recherches qui venaient d'être entreprises ou qui étaient en cours sur ces questions-là, qui allaient disons se lancer aussi, notamment. Alors, je vous ai mis quelques références, voilà. L'histoire de Marseille, c'était le travail de Laurence Américi sur les chambres, sur la caisse d'épargne et le rapport des classes populaires au crédit. Céline Reynard a commencé ensuite une thèse sur la violence à Marseille, une thèse qui a été publiée, que je vous ai amenée pour que vous puissiez la regarder, Marseille la violente. Donc vraiment la question de la violence dans cette ville portuaire. Et il faut savoir que quand j'ai commencé donc ma thèse, cette histoire de la criminalité était vraiment clivée entre deux approches, une approche d'histoire culturelle et une approche d'histoire sociale. Une histoire culturelle qui partait donc de l'étude des représentations, de la presse, des sources imprimées. Le représentant le plus emblématique de cette école, si on peut dire aujourd'hui, c'est Dominique Khalifa. Alors, son livre a circulé au dernier séminaire. Je ne savais pas si les mêmes personnes seraient là aujourd'hui, donc je l'ai aussi apporté pour le refaire circuler. Donc, Les Bas-fonds qui vient de paraître. Et puis plutôt une histoire sociale finalement de la criminalité qui avait été impulsée par dans les années 70 par Michel Foucault, les travaux d'Arlette Farge en histoire moderne, et puis il y avait eu d'autres recherches ensuite, telles que celle d'Annick Tillier sur l'infanticide en Bretagne, celle de Sylvie Lapalu sur le parricide. Et c'était chaque fois donc des travaux qui portaient sur des archives judiciaires, soit des dossiers de procédure, soit associant l'étude de dossiers de procédure particuliers avec un soubassement statistique fondé sur les décisions de justice, c'est-à-dire les arrêts d'assises et les jugements correctionnels, ou bien l'un et l'autre, en fonction donc des infractions étudiées. Donc, ce que je souhaitais, c'était m'inscrire dans ce champ-là en questionnant la possibilité de trouver des liens, des connexions entre ces deux approches-là, voir de quelle façon elles pouvaient s'entrecroiser, s'entremêler, pouvaient repérer disons des formes de temporalité semblables ou pas, des décalages, voilà. Et cela à propos donc de la question de la criminalité organisée, ce qu'on peut appeler le milieu, sachant que le milieu, quand d'emblée on parle du milieu, on est dans le domaine de l'histoire culturelle et des représentations, beaucoup plus que dans l'histoire sociale, parce qu'il y a tout un imaginaire du milieu tout à fait foisonnant, voilà, qu'on peut étudier comme une représentation. Et donc l'idée, c'était d'essayer d'aller au-delà de cette représentation pour vraiment voir ce que c'était que les pratiques on va dire, des trafiquants et des voleurs, entre guillemets, de profession, hein, voir ce que c'était que leurs pratiques, et comment, en étudiant donc finalement la criminalité, la délinquance réprimée devant les tribunaux, il était possible de comprendre l'émergence de la représentation du milieu. Donc, je voulais donc faire ça, mettre les deux en parallèle. Donc, la méthode, ça a consisté d'une part à travailler sur des sources imprimées. Alors là, c'était relativement facile d'identifier des figures, des lieux du crime, des pratiques criminelles, hein. Puis maintenant, c'est quand même un domaine qui est bien balisé, c'est-à-dire cet imaginaire des bas-fonds, le passage de la pègre au milieu, après, dans le premier 20e. Mais ce qui était plus compliqué, c'était finalement de chercher le crime organisé dans les sources judiciaires. Alors, je fais comment dire, tout ce détour, si vous voulez, méthodologique, essentiellement pour vous expliquer comment, en partant d'un travail qui portait sur le milieu et la criminalité organisée, donc ce qui aurait pu être finalement un champ relativement restreint, hein, d'une focale restreinte, j'en suis venue à finalement pouvoir cerner des formes d'économie informelle, des types d'économie informelle, si tant est que parler d'économie informelle, ça a un sens, dans la mesure où, comme vous l'imaginez bien, si on parle d'économie informelle, ça veut dire qu'on oppose une sphère informelle des échanges à une sphère formelle, et qu'il y aurait donc une sorte de frontière entre les deux, et en réalité, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a énormément de trafic, d'échanges qui se situent à la limite ou en marge du légal. Donc, vous avez plus un continuum que vraiment une opposition entre deux domaines, on va dire, sauf si on se place évidemment d'un point de vue tout à fait juridique ou normatif. Alors la première question qui s'est posée sur mes sources judiciaires, c'était que chercher finalement ? Que chercher ? Parce que c'est vrai que l'objectif, c'était de faire une sorte de généalogie du milieu, mais bon, voilà, dans ces pratiques. Est-ce qu'il fallait que je prenne un certain nombre d'infractions que vous et moi, aujourd'hui, nous identifions très clairement comme étant les infractions des malfaiteurs de profession ? Est-ce que il fallait que j'aille chercher ce qu'il en était aux époques antérieures au 19e? Bien évidemment, je me suis dit que c'était pas très satisfaisant parce que il y avait premièrement des risques d'anachronisme, c'est-à-dire que évidemment que c'est pas parce que le trafic de drogue c'est une infraction caractéristique des milieux criminels depuis les années 1920, c'est pas pour cela pour autant que ça l'aurait été au 19e, parce qu'il y a bien évidemment une histoire et bien des pratiques criminelles et des formes d'incrimination, hein. Et deuxièmement, il se trouvait que quand j'ai commencé ma thèse, l'essentiel des travaux qui étaient écrits sur le milieu, c'était des travaux issus du monde du journalisme, beaucoup qui étaient écrits par des chroniqueurs judiciaires qui eux-mêmes avaient été chroniqueurs judiciaires dans les années 30 et qui donc finalement ne faisaient que répercuter dans leur littérature eh bien, les représentations qu'ils avaient et qu'ils produisaient dans la presse dans les années 30. Donc, ça disons que il fallait s'extraire, évidemment, de ce qui pouvait paraître comme une sorte de domaine un peu fermé des représentations. Parce que l'objectif, c'était bien ça, écrire une autre histoire du crime organisé. Donc, l'idée que j'ai eue, ça a été de, finalement, élargir, prendre un certain nombre de coupes sur la longue période, aussi bien aux assises qu'en correctionnel, pour observer l'ensemble des infractions qui, finalement, étaient perpétrées, surtout étaient jugées, hein, parce qu'il est bien évident, quand on travaille sur des sources judiciaires, on travaille sur la criminalité jugée et pas sur la criminalité existante. La deuxième question que je me suis posée, c'est où chercher ? C'est-à-dire, évidemment que je suis partie d'une thèse d'histoire judiciaire, mais il est très vite apparu que ces sources judiciaires, elles seraient limitées, puisque si vous travaillez sur des milieux qui, par définition, mettent en place des stratégies pour échapper à la répression, bien évident que vous allez peiner à les trouver dans les archives dès qu'ils deviennent un petit peu, disons, professionnels. Donc, j'ai doublé ces sources-là par des sources policières, évidemment, toujours dans une optique critique, sachant qu'alors là, évidemment, dans les sources policières, j'élargissais énormément la focale, puisque pouvaient se retrouver surveillés ou bien poursuivis ou arrêtés par la police des individus qui, en réalité, n'étaient pas du tout des criminels de profession, mais que la police présentait comme cela parce que, par exemple, le meilleur exemple, ce sont des bandes de nervis, qui sont des bandes de jeunes de quartier des années 1900, qui sèment un peu, on va dire, la pagaille dans les rues de la ville, et donc ils sont arrêtés parce que, soi-disant, ils feraient du trafic, et en réalité, ça n'a pas l'air d'être le cas, ce sont simplement des bandes qui s'opposent à la police, mais selon des logiques tout à fait différentes. Donc, voilà, ces sources-là, étudiées aussi avec du recul. Et la troisième question, c'était comment chercher. Ce qui est bien évidemment complexe, c'est que vous n'avez pas une infraction qui s'intitule crime organisé, certainement pas au 19e. Donc il fallait prendre un éventail d'infractions assez large. La question, c'était quelles infractions sélectionner. Parce que il existe bien l'association de malfaiteurs, qui est définie par le Code pénal de 1810, mais l'association de malfaiteurs est très peu utilisée au 19e, et on se rend bien compte que lorsque les magistrats l'utilisent, c'est parce que ils sont face à des enquêtes sur des vols disons des vols qui sont considérés comme graves, avec un certain nombre de circonstances atténuantes. Et en général, l'association de malfaiteurs est plus invoquée pour impressionner le jury que parce que réellement on a les moyens de démontrer qu'il y a eu association de malfaiteurs. Que c'est extrêmement difficile à qualifier. Et ce qui était très compliqué, c'est d'abord qu'il fallait trouver les infractions qui étaient susceptibles d'avoir été commises, et par ailleurs, sélectionner dans ces infractions celles qui étaient commises par des bandes, par exemple, ou par des malfaiteurs. Je vous donne un exemple le plus évident, c'est la question du vol. C'est-à-dire que si vous travaillez sur des registres d'arrêt d'assises, bon, il y a énormément de vols qualifiés aux assises, simplement le registre... Et le détail de l'affaire, enfin la façon dont c'est décrit, disons, dans ce registre, ne vous permet pas de savoir que vous avez affaire à des bandes organisées ou bien que vous avez affaire à un voleur, à un individu qui vole pour la première fois et qui ne va pas voler ensuite, qui n'est pas dans une sorte de, entre guillemets, carrière criminelle. Donc il fallait trouver des sources qui permettent finalement, d'identifier de façon assez inductive, finalement, hein, d'identifier pour le 19e la configuration de ces trafics et de ces vols. Et pour ça, donc, il y a deux types de sources qui m'ont été utiles. C'est d'une part les comptes rendus d'assises, qui sont donc des sortes de résumés qui sont faits des affaires et de la façon dont elles ont été jugées, donc après coup. Et deuxièmement, les arrêts de la chambre des mises en accusation, qui sont des arrêts qui sont prononcés, pour le coup, avant qu'il y ait eu procès, mais qui servent à déterminer si, juridiquement et légalement, une affaire doit être ou non renvoyée aux assises. Et si vous voulez, dans les deux cas, bon, les buts de ces sources n'est pas de livrer des résumés d'affaires, mais c'est globalement, c'est ce qu'elles font. C'est qu'elles permettent, en une quinzaine, voire parfois plus, si ce sont vraiment des grosses affaires, mais elles permettent d'avoir une lecture rapide des dossiers jugés, de se faire globalement une idée du type de criminalité auquel on a affaire. Et ça, c'est important parce que ça signifie qu'on arrive à déterminer grâce à ces sources-là si tel ou tel crime est ou non représentatif d'une époque. C'est la question de l'exemplarité de l'exemple, enfin, l'exemplarité du cas, pardon. C'est-à-dire, quand est-ce qu'un cas est exemplaire? C'est quand il est représentatif, d'après moi, d'une tendance assez forte. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai privilégié trois critères pour déterminer, les affaires qui pouvaient entrer dans le cadre du crime organisé. D'abord, qu'elles aient une visée pécuniaire. Il ne s'agissait pas de constituer un corpus où j'avais, par exemple, des meurtres passionnels. Ça n'aurait pas eu de sens. Qu'il y ait une certaine récurrence du comportement. Récurrence, ça pouvait vouloir dire un individu, évidemment, en situation de récidive. Mais plus largement, ce qui était important pour moi, c'est que je trouve un certain nombre d'affaires pécuniaires du même genre, ce qui montrait qu'il y avait une sorte de logique sociale, si vous voulez, dans cette infraction. Et le troisième élément, c'était que ça soit finalement une infraction dans laquelle je repère des interactions sociales autour de l'ordre d'un trafic, par exemple, c'est-à-dire d'un échange entre un infracteur, par exemple, et puis un client, ou alors l'infraction ait été commise en réunion avec, par exemple, une répartition des tâches, ce qui montrait qu'on était quand même dans une forme d'organisation. Je vous ai indiqué en dessous donc les coupes que j'ai étudiées très précisément. Je vous dirai pas que je suis particulièrement fière de mon choix, parce que si vous regardez dans le détail, c'est pas aussi beau que ça devrait l'être. C'est-à-dire, il n'y a pas une rigueur en termes, vous voyez, d'ouverture des périodes ou bien de régularité. Ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, c'est de couvrir toute la période et puis de me situer à des de me situer sur des années où il y avait des recensements marseillais. Mais bon, ça, j'ai pas pu l'exploiter. Alors, l'avantage avec ce travail-là, c'est que j'ai brassé beaucoup plus, finalement, que simplement certains types de criminalité collective, à caractère pécunier ou de trafic, hein, et que j'ai pu saisir des formes j'appellerais, moi, personnellement, d'économie interlope ou informelle, vous voyez, impliquant des individus qui n'étaient pas forcément des professionnels, mais montrant qu'il existait tout un tas toute une gamme, pardon, d'échanges marchands en dehors de finalement la sphère légale ou légitime du commerce. Alors l'objectif ici, ce que je voudrais, c'est donc revenir sur ces formes de trafic que j'ai repérées et interroger la question du port, c'est-à-dire dans quelle mesure finalement on peut dire que ces trafics, ils sont liés à la présence du port ou pas, puisque bon, voilà, c'était pour s'inscrire dans le programme de ce séminaire qui était sur les villes et les espaces portuaires. Et je voudrais d'abord revenir au sujet de la séance d'aujourd'hui, qui était intitulée « Société portuaire, société interlope ». Là, vous imaginez bien, enfin, vous voyez tout de suite qu'on est sous l'angle des représentations. Hein, ça nous évoque tout de suite tout un ensemble d'éléments, les pirates, les contrebandiers, le cosmopolitisme, les tapis francs, etc. Mais évidemment, moi, ce qui m'a intéressé, ça a été d'étudier ça sous deux angles, hein, donc sous l'angle très précisément des représentations. Et d'autre part, sous l'angle eh bien, de la réalité des pratiques. Sachant que ce travail que j'ai fait sur les pratiques, il m'a pris beaucoup de temps. Et donc finalement, un troisième temps que je pensais faire, qui aurait plus été sur les individus, hein, je l'ai laissé un peu de côté, je me suis plus intéressée aux pratiques. La façon dont il m'a paru qu'il fallait raisonner, et j'espère que ça pourra faire résonance ici à un auditoire qui est composé beaucoup de géographes, mais pas seulement, enfin les deux, d'accord. C'est que non, pas trop, d'accord. Cette présence du port et la question du port dans les trafics, il faut la voir sous trois échelles. Hein. D'abord, le niveau précisément des espaces portuaires, c'est-à-dire le port en tant qu'espace physique, on va dire. Deuxièmement, m'a-t-il semblé, c'est surtout sous cet angle-là que j'ai travaillé dans ma thèse d'ailleurs, c'est l'échelle de la ville, hein, ce qui permet évidemment de voir l'ensemble de la déviance, de la délinquance et de la criminalité dans une ville, et donc de voir la part du port finalement là-dedans. Et le niveau de la ville, il est évidemment absolument inévitable, parce que finalement, les juridictions pénales, elles ont bien une entité administrative, et par exemple le tribunal correctionnel, bon, ben, son entité administrative c'est Marseille, et puis quand on travaille sur les assises, on peut identifier on peut identifier les affaires marseillaises qui ont été instruites à Marseille. Mais le troisième échelon, c'est le niveau, on va dire, supra-urbain, hein, dans la mesure où j'ai toujours situé ce travail dans une relation entre Marseille et la nation, et entre Marseille et donc, on va dire, l'international. La raison principale en étant que, aussi bien à l'échelle des représentations que des formes que peut prendre l'économie informelle, si bien au niveau d'ailleurs de la réglementation, surtout de la pénalisation et des lois, bon, ben, finalement tout cela, tout ce contexte-là, il n'est pas propre au local, il n'est pas proprement local, il est déterminé en grande partie par des choix qui sont impulsés par la capitale, quoi. Donc, et puis par des logiques économiques d'industrialisation et de mondialisation qui échappent à l'échelle locale. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que aussi bien dans le domaine des représentations que dans le domaine des pratiques, il y a une connexion qui va se faire entre le port et le crime organisé, qui a tendance à s'accentuer à partir, disons, d'une période qui court des années 1880 aux années 1920, sachant qu'il y a un écart entre les représentations et les pratiques, parce que au niveau des pratiques, donc l'importance du port manifeste dès les années 1890, alors que dans les représentations, ça ne sera véritablement, central que dans l'entre-deux-guerres. Voilà, il y a un petit décalage. Hein. Alors, je vais malgré tout commencer par la question des imaginaires, parce que moi, c'est la question qui va la plus évidente, on va dire. Alors, le premier travail pour moi, ça a été de repérer dans l'ordre des imaginaires criminels, des imaginaires urbains aussi, la place de Marseille et la place du crime dans la représentation de Marseille. Donc là, ce que je vais faire, c'est parler aussi bien de ça que de la place du port. Hein. J'ai travaillé à partir donc des bases de données de la BNF, de la Bibliothèque historique de Marseille. J'ai repéré les grands auteurs marseillais dans les anthologies de littérature marseillaise. J'ai croisé ça avec Frontexte aussi. Et avec donc un repérage des types de littérature populaire pour l'entre-deux-guerres. J'ai pas pu faire d'études systématiques de la presse, ça aurait été une thèse en soi. Et j'ai travaillé à deux échelles d'analyse. La première échelle, c'est le local, et la deuxième, c'est le national, c'est-à-dire distinguer les sources imprimées en fonction de leur lieu, disons, de production, c'est-à-dire soit qu'elles étaient révélatrices d'un imaginaire proprement marseillais, soit qu'elles étaient révélatrices d'une image de Marseille dans des représentations, on pouvait dire nationales, dans la mesure où il est bien évident que c'est Paris, en France, qui crée finalement les imaginaires nationaux et qui valide, enfin, les imaginaires de la province. Des lieux de province sont créés par Paris, ou en tout cas validés par Paris. Et donc j'ai commencé d'abord par travailler donc sur cet imaginaire local. Et ce qui est très frappant, c'est que dans le premier 19e à Marseille, le crime n'occupe pas une place importante du tout, tandis que le port est présent. Mais si vous voulez, il y a plus une mise en relation du port avec la pauvreté. Alors le premier exemple, alors évidemment que je n'ai pas parce que qu'est-ce que j'ai fait? Oui, d'accord, j'ai inversé. Voilà. Le premier exemple que je vous citerai, c'est Victor Gélu dans un poème qui s'appelle L'Oupègue ou en 1840. Victor Gélu, donc c'est un poète marseillais issu de milieux plutôt populaires et qui a eu pas mal de succès parce qu'il était un peu en marge finalement du mouvement des faits libres, mais c'était une poésie un peu qui a été considérée comme assez réaliste. Hein. Et donc lui, ce qu'il décrit dans Loupé, où on voit bien qu'en plus il y a un lien avec Pègre et Pègre, et lui-même le dit hein, dans sa préface de 1855. Eh bien, l'idée qu'il développe dans ce poème, c'est que sur les quais, il y a énormément de vagabonds et surtout de petits vagabonds des quais. Et le premier exemple, donc, c'est l'histoire de on va dire, ce gamin marseillais qui vit sur les quais et qui, je vous cite juste les deux derniers vers, je fais le soufre, je fais le campêche, je fais l'indigo, le sucre et le café. On retrouve ça dans les sources judiciaires. Il y a, on le verra tout à l'heure, tout un ensemble de trafics illicites sur le port, commis par des enfants, commis par des femmes sans travail, donc une population très miséreuse, qui a pour activité de faire. Qu'est-ce que ça veut dire de faire le soufre, etc.? Ben, ça veut dire on se promène autour des marchandises qui sont laissées ou enfin, sans grande surveillance sur les quais. On a le droit de ramasser ce qui est tombé à terre en cours de transport. Et puis, si personne ne regarde, ben, on donne un petit coup de canif dans un ballot et puis on se remplit les poches de marchandises qu'on va ensuite aller revendre à des commerçants. Donc ça, c'est une réalité sociale de cette période. Et le port, c'est évidemment un lieu donc à ce moment-là. Bon, j'y reviendrai un peu plus loin, mais voilà, un lieu de petit trafic comme cela. Dans la période des années 1840-1900, on observe donc dans la littérature marseillaise le déploiement d'un imaginaire des bas-fonds qu'on ne trouvait pas, enfin que j'ai pas trouvé pour le début du 19e, qui est centré sur la vieille ville. Et alors là, ce qui est assez important, c'est que cet imaginaire des bas-fonds qui cristallise donc une représentation souvent assez surannée du crime jusqu'aux années 1870, il est très urbain, hein. Il n'est pas du tout portuaire. On est là dans un imaginaire criminel urbain. Et il faut attendre vraiment les années 80-90 pour que cet imaginaire devienne véritablement un imaginaire contemporain, inquiétant, et indiquant l'existence d'un vrai sentiment d'insécurité dans ces quartiers, une peur du crime et de l'armée du crime, parce que jusque-là, les bas-fonds, c'est la cour des miracles médiévale, quoi. C'est la société, c'est la gueuserie, et c'est uniquement une représentation qui sert à focaliser une crainte face à la modernisation, l'industrialisation et la destruction du centre-ville, hein. La destruction des vieux quartiers dans le cadre de l'haussmannisation. Qui finalement fait du port, disons, le pivot d'un discours sur le crime à cette période, ce sont les autorités locales, et ça vient relativement tard. Ça vient à partir des années 1850. Un bon exemple, c'est donc le maire de Marseille, Bonaventure de Chantrac, qui en 1850 écrit au préfet un grand courrier pour lui expliquer qu'il faut absolument raffermir la police marseillaise. Et il explique que, comme vous le voyez, notre population de plus de 180 000 âmes est entièrement ouverte. Son port si important est fréquenté par tant d'individus de toutes les nations, etc. Donc Marseille est un lieu particulièrement difficile à contrôler. Le port comme sas, le port comme lieu d'entrée de populations, qui sont susceptibles d'être des populations à risque, on va dire. Ça, c'est une thématique qui naît à ce moment-là dans ce courrier du maire et qu'on retrouve à Marseille. Je les ai retrouvés dans les archives jusque dans les années 1940. Ce qui va se passer, c'est que la municipalité puis le préfet demandent régulièrement à l'État de renforcer son intervention pécuniaire, on va dire, enfin son financement de la sécurité marseillaise, en prétextant en avançant que Marseille, c'est pas seulement une ville locale, mais c'est une ville d'intérêt national à cause du port, et que le port, c'est la frontière, et que le port, c'est aussi un enjeu économique majeur, un pôle, disons, de l'économie nationale, et que par conséquent, l'État doit intervenir dans gestion policière de la ville. Alors, il faut voir que l'intervention de l'État dans la prise en charge policière de la ville, elle ne va intervenir qu'en 1907. Là, on est en 1850, hein, c'est-à-dire qu'entre 1850 et 1907, des courriers sans cesse des autorités locales pour dire on veut l'intervention de l'État, et l'État refuse d'intervenir financièrement dans la gestion de la sécurité de la ville. C'est significatif d'une chose, c'est que jusqu'aux années, 1890 plutôt, pour les pouvoirs publics centraux, pour la capitale, pour l'État, Marseille n'est pas une ville dangereuse. Et ça, voilà, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait penser que de tout temps, Marseille, ça a été une ville avec des bandits, une ville dont on n'a pas su gérer la sécurité, etc. Pour l'État, il n'y a pas de problème marseillais au 19e. Il y a un problème lyonnais, mais il n'y a pas de problème marseillais. C'est-à-dire qu'il y a une police d'État à Lyon, mais pas à Marseille. C'est à partir des années, je ne dois pas avancer, j'ai oublié, je dirais 1860 par là. Hein. C'est après les grandes révoltes des Canuts, il y a eu étatisation de la police lyonnaise, mais pas de la police marseillaise, le prétexte étant que Marseille est une ville très calme et qu'il n'y a pas de problème. Donc, ça, évidemment, c'est un imaginaire qu'on retrouve dans la littérature du 19e, produite à Paris, en particulier la littérature de voyage, où Marseille, ça va être d'abord une ville exotique, mais c'est l'exotisme méditerranéen de la lumière, des essences, des pins. Vous voyez, c'est vraiment presque une ville qui, au départ, est abordée comme une campagne. Vous voyez, dans l'imaginaire romantique, c'est ça, c'est que Marseille, c'est quand même une province, et donc c'est assimilé à un espace, finalement, paradoxalement un peu rural. Le deuxième élément, c'est qu'à partir des années 1840, Marseille, ça va être la grande ville industrielle, la ville du port, la porte de l'Orient. Quand le maire écrit en 1850, il faut renforcer la sécurité à Marseille parce que c'est une voie d'entrée de populations dangereuses. Il se heurte à une représentation, collective, que partagent les élites marseillaises et que partagent les élites parisiennes, qui est que, mais pas du tout, Marseille, c'est plutôt une voie d'expansion de la France en Méditerranée, vers l'Orient, etc. Vous voyez, c'est une vision complètement différente du port. C'est le port comme tête d'expansion et pas du tout une frontière à colmater parce qu'il pourrait venir des populations dangereuses. Donc, on est là dans un imaginaire très positif. Alors, je reviens un peu en arrière. Je vous ai pas cité pour 1840. On en reviendra, mais c'est une exception, donc c'est pas très important. L'élément important, c'est qu'on est là évidemment dans un imaginaire, dans une projection de Marseille comme une ville qui a un avenir international. Hein, c'est cet imaginaire de Marseille tel que l'a expliqué, développé Marcel Roncaiolo dans son travail sur l'imaginaire de Marseille et que reprend donc Bruno Marnot en partie dans son travail sur les grands ports de commerce français et la mondialisation au 19e. Donc l'image de ce port qui domine, c'est une image très positive à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il est en grande transformation. C'est un moment de construction des nouveaux quais, vous voyez là, sur... en direction du nord, donc là ça va vers la gauche, hein. Vous avez les nouveaux bassins qui sont peu à peu construits à partir des années 1850, parce qu'au départ, le commerce marseillais, il était surtout centré sur la rive sud du Vieux-Port. C'était là. Mais évidemment, avec la transformation des navires liés donc à l'essor des échanges internationaux, le port des temps modernes, qui est encore le port central enfin, du commerce dans les années 1830-1840, est complètement inadapté. Donc, aménagement des nouveaux bassins à partir des années, et mise en fonctionnement à partir des années 1850. Donc ça, c'est voilà le type de propos qu'on trouve sur Marseille au milieu des années 1840, hein, c'est-à-dire l'idée que ce port que l'on construit, c'est le signe d'un avenir peu radieux, hein, et la ville peut tenir tout ce que sont en droit d'attendre d'elle, la France et le commerce du monde. Donc c'est un imaginaire très conquérant. Ce port, il est si important que dans le second 19e, il devient dans les représentations une sorte de métonymie de la ville. C'est-à-dire, il suffit d'évoquer le port de plus en plus pour évoquer la ville. Mais pour autant, on ne peut pas dire que ce port il soit associé à l'idée de crime et de dangerosité au 19e. En revanche, dans les années 1880-90, dans la littérature scientifique, en particulier dans la sociologie criminelle, dans les travaux d'Henri Joly, on va trouver cette idée que Marseille devient un des grands pôles de la criminalité nationale. Qu'est-ce qui se met en place à ce moment-là? C'est une transformation de la représentation spatiale, si l'on peut dire, du crime en France. Parce que jusqu'aux années 1870, le crime, c'est il y a d'une part Paris, c'est la modernité criminelle, et d'autre part les provinces. Alors c'est le crime, comme on peut l'imaginer encore au XVIIIe siècle, avec les bandes rurales, si vous voulez. C'est cette représentation-là. Dans les années 1880-90, on voit se transformer cet imaginaire, cette représentation, on va dire, en particulier parce qu'il y a des travaux qui sont faits sur la statistique criminelle et qui vont montrer que les villes de province sont aussi des pôles de criminalité. Et Marseille va en faire partie, mais l'interprétation qu'il est fait de cette criminalité, c'est pas tant que Marseille c'est un port, c'est plutôt le fait que Marseille c'est une grande ville et qu'il y a beaucoup d'étrangers. C'est-à-dire il y a un lien qui est fait à ce moment-là entre immigration, déracinement, perte des repères, donc criminalité. Et comme vous le savez sans doute, Marseille, c'est une grande ville d'immigration italienne à partir du Second Empire et donc encore dans les années 1880, assez fortement. Finalement, cet imaginaire interlope du port, on va le trouver surtout dans la littérature journalistique de l'entre-deux-guerres et dans plus largement même les romans aussi de l'entre-deux-guerres. Et on le voit émerger à partir des années 1900, hein, c'est-à-dire que dans la littérature d'aventure, le port va devenir un lieu mystérieux, un lieu un peu de tous les possibles, et un espace, enfin les villes portuaires plus largement vont devenir des espaces qui ont des quartiers, qui sont des quartiers qu'on peut dire interlopes, des quartiers où se mêlent des populations cosmopolites venant de multiples endroits, évidemment, puisque les villes portuaires sont des lieux d'escale, sont des villes qui accueillent des populations, des gens de mer. Donc voilà, toute une sociologie particulière dans ces quartiers-là. À Marseille, c'est le quartier, sont les vieux quartiers dont l'épicentre est le quartier réservé. Et là, le meilleur exemple, hein, c'est si ça vous intéresse, c'est de lire Marseille, porte du sud d'Albert Londres. Hein, c'est lui qui le mieux décrit Marseille comme un très grand port. Mais un port qui a son envers du port, et l'envers du port, donc ce sont les bas-fonds en fait, hein, enfin l'imaginaire des bas-fonds portuaires, se trouve dans les vieux quartiers. Ce que la présence du port apporte finalement à cet imaginaire des bas-fonds, c'est premièrement l'exotisme, l'idée que le port c'est déjà l'ailleurs, donc présence de populations coloniales en particulier, hein. Et deuxièmement, c'est le cosmopolitisme. Parce que, en tout cas, Dominique Khalifa, dans son livre, enfin, il faudrait que je le relise plus précisément, mais j'ai l'impression qu'il ne parle pas de ce cosmopolitisme, par exemple, pour les bas-fonds parisiens ou pour les bas-fonds de Londres. Alors que c'est vraiment très spécifique, me semble-t-il, aux bas-fonds des grands ports. Ces ports sont cosmopolites. Le cosmopolitisme, vous savez que c'est une valeur qui est ambivalente. Dans les années 1920, aussi bien dans Détective que dans le texte d'Albert Londres, c'est un cosmopolitisme qui est positif. hein, puisque c'est l'aventure, c'est cette, cet imaginaire de l'aventure, c'est l'idée qu'on rencontre, qu'on va dans la, vers la rencontre de l'altérité. Et ça correspond d'ailleurs à une représentation des bas-fonds de Marseille plutôt ensoleillés, rieurs, joues, enfin, etc. En revanche, dans les années 30 et surtout après 1935, là, c'est un imaginaire qui se transforme. Le cosmopolitisme devient négatif, devient suspect. Et on perd d'ailleurs cet imaginaire des bas-fonds qui est en train de se défaire parce que émerge l'imaginaire du milieu. Et cet imaginaire du milieu, il n'a pas vraiment de lieu spécifique dans la ville. Il n'est pas spécialement lié au port. En revanche, on voit apparaître le port comme interface. Et ça, c'est la grande nouveauté de l'imaginaire des bas-fonds. C'est vraiment l'idée que le rapport à l'espace portuaire et au port est finalement beaucoup plus, on va dire, pas rationnel, mais fonctionnel. D'accord ? C'est-à-dire le port, ce n'est pas là pour générer une ambiance. C'est plus là parce que c'est un instrument, un outil pour des trafics, enfin un espace à contrôler. Donc ça, c'est ce qu'on observe quand on travaille sur les représentations. Après, que se passe-t-il quand on va dans les archives judiciaires et policières ? Le mouvement général que j'ai repéré dans ces archives, pour vous, je vais vous cadrer le contexte en fait. Hein. Le mouvement général, c'est d'abord qu'il y a une économie qu'on peut appeler prédatrice hein, qui perdure tout au long de la période. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que quand on travaille sur les archives judiciaires, et y a, parce que l'infraction qui est la plus présente, c'est le vol, et qui est présente depuis 1820 jusqu'en 1940. Voilà. Et que ces vols, de mon point de vue, il faut pas seulement les étudier comme pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire uniquement le fait de prendre quelque chose à quelqu'un. Hein. Ce qui est important quand on travaille sur les milieux criminels, c'est de voir le vol comme un préalable à un trafic. Et le trafic, c'est le trafic de biens volés. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas s'arrêter au vol, sauf s'intéresser aux pratiques, hein, c'est-à-dire comment on fait pour s'approprier des biens. Mais quand on est dans une logique de criminalité organisée, travailler sur ce type-là de déviance, bien évidemment, ce qui est important, c'est que l'objet volé soit volé parce qu'il permet l'enrichissement. Il permet, enfin l'enrichissement en tout cas, un gain pécunier qui ensuite donc est une forme de revenu. C'est ça qui est important. Le deuxième élément que l'on peut repérer, c'est l'essor des trafics illicites à partir des années 1880. Et c'est là que je dis qu'il y a un décalage, c'est qu'à partir des années 1880, on peut repérer des trafics internationaux. Alors que dans les représentations, finalement, cette place du port dans les trafics internationaux, elle est vraiment formalisée que plus tard. Donc, essor de trafic aussi bien localement que dans une échelle où Marseille n'est qu'un finalement n'est qu'un point d'appui à des trafics sur une échelle plus vaste, enfin, en tout cas, internationale, pardon. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le type d'activité que je repère comme étant des trafics n'existe pas avant, en partie, simplement que c'est pas une préoccupation des forces de l'ordre, c'est pas une préoccupation de la justice, et que par conséquent, on le trouve pas dans les archives judiciaires. L'exemple que je peux vous donner le plus évident, c'est que je vais trouver énormément d'archives sur le proxénétisme à partir des années 1860 et plus encore 1880. Mais il existe bien évidemment du proxénétisme avant. Hein, les historiens modernistes le savent bien. Et simplement, moi, ce que j'ai trouvé dans les archives judiciaires, si je veux travailler sur le proxénétisme pour avant la grande époque, on va dire, de criminalisation, hein, bien, il faut travailler sur les coups et blessures. C'est-à-dire que dans les années 1840, ce qui est sanctionné, ce que je trouve de sanctionné, c'est finalement le fait pour un proxénète de frapper une prostituée, ou bien ça va être le fait pour une tenancière de maison close de faire travailler des mineurs. Donc c'est plus un angle moral hein, que le trafic en lui-même qui est sanctionné. Et l'essor des trafics, donc d'abord de la prostitution et des jeux à partir des années 1880, puis trafic de drogue, c'est vraiment à partir des années 1920. Et enfin, le troisième élément qui ici nous concerne peu, hein, c'est la visibilité des règlements de compte. C'est-à-dire que j'ai étudié l'ensemble des crimes qui sont jugés. Et ce qui est très frappant, c'est que avant les années 1898-99, Finalement, j'ai trouvé que deux affaires de règlement de compte. Il semble que ces affaires de vengeance dans les milieux criminels commencent véritablement avec le XXe siècle. Alors, je ne vais pas raisonner en termes statistiques, hein, parce que vous savez, quand on fait des statistiques judiciaires, on mesure d'abord donc le travail de l'institution, plus que la réalité des infractions. On a beaucoup de mal à faire le lien entre la réalité des trafics et des vols et donc les statistiques judiciaires, malgré tout. Mais je vais quand même vous montrer quelques tableaux pour vous expliquer comment j'ai fait pour travailler à partir de ces archives. Alors tout ça, je passe. Hein. Donc, la méthode que j'ai employée dans ma thèse, parce que je me suis beaucoup, interrogée sur la façon de travailler de manière rigoureuse sur des archives, sachant que le type de criminalité que je cherchais n'était pas caractérisé juridiquement. Donc j'ai commencé par faire une chose, c'est que j'ai pris le code pénal de 1810 j'ai regardé quelles étaient les infractions qui, de toute évidence, par leur définition, ne pouvaient pas, vraiment exceptionnellement, relever du type de criminalité, de délinquance que je cherchais. Donc vous voyez par exemple les affaires de meurtre, d'espionnage, d'élections. Élections, ça aurait pu, hein, mais il se trouvait qu'il y en avait vraiment très très peu. Donc, les affaires d'élections ou tous les non-respects de règlements étatiques, la chasse, etc., bon, ça paraissait pas pouvoir entrer dans mon corpus. J'ai fait ça aussi bien pour la correctionnelle, ça c'est la correctionnelle, et ça ce sont les assises, sachant que par exemple pour les attentats à la pudeur, je suis quand même allée regarder dans certains cas si ces attentats à la pudeur, ils pouvaient pas évoquer des affaires de meurtre dans le milieu des proxénètes. Hein. Mais bon, à force de regarder des affaires d'attentats à la pudeur qui n'avaient aucun lien avec les milieux criminels, j'ai laissé tomber. Voilà. Après, le deuxième élément, c'est qu'il me restait donc, une fois que j'avais enlevé ça, il me restait donc un certain nombre d'infractions. Alors, je me suis dit, ces infractions, je vais les ventiler dans une sorte de typologie qui pourrait être une typologie théorique. On s'est un peu tiré par les cheveux, mais qui pourrait être une typologie théorique, me disant, tiens, théoriquement, quand je regarde comment est formulée l'infraction, elle pourrait finalement considérer que elle pourrait être révélatrice de pratiques organisées ou bien d'individus faisant partie de ces milieux. Donc là, j'ai fait une autre typologie, c'est-à-dire en distinguant d'une part donc les crimes et les délits qui procédaient un peu des activités, les infractions qui procédaient finalement de la préservation de ces activités, sachant que les expressions anglophones que j'ai conservées, Enterprise Syndicate et Power Syndicate, sont des catégories forgées par Alan Block, qui a travaillé donc sur le crime organisé à New York, hein, dans les années 1920, au moment de la prohibition, beaucoup, 1900-1940. Voilà. Donc, je me suis dit, voilà, toutes ces infractions, elles fonctionnent comme cela. Et après, donc, j'ai ventilé mes affaires pour. Ça me permettait, si vous voulez, d'avoir une idée de ce que je trouvais dans mes archives, de la façon dont je pouvais les répartir. Vous voyez, les prédations, les types d'infractions qui pouvaient relever de trafic, ceux qui pouvaient relever de la protection. Alors, lorsque j'indique avant sélection, ça veut dire que ce sont toutes les affaires, par exemple, de violence, mais sans avoir enlevé celles qui ne relevaient pas des milieux criminels. Et évidemment, une fois que j'avais fait cette classification-là, qui était pour moi une façon vraiment de visualiser mon premier corpus, une sorte de pré-corpus, finalement, j'ai retravaillé au cas par cas à l'aide des arrêts de la chambre des mises en accusation et des comptes rendus d'assises donc pour les crimes. En revanche, pour les délits, ça n'existe pas ces sources-là. Donc là, je me suis plutôt arrêtée aux détails des jugements, sachant que par chance, les jugements sont plus détaillés que ne le sont les arrêts d'assises. Mais évidemment, ça avait quand même une limite, c'est que dans l'entre-deux-guerres, ces jugements sont nettement moins détaillés que ce qu'ils étaient avant. Mais vous voyez, après, on peut établir des typologies différentes des infractions qui relèvent je suis encore pas évidemment dans le crime organisé, mais je vous dirais que franchement, à mon avis, la seule solution pour faire une vraie statistique du crime organisé, c'est d'utiliser des outils statistiques beaucoup plus puissants que ce que moi j'utilisais, en particulier de l'analyse, à mon avis, multifactorielle pour faire varier, vous voyez, les, euh, pour faire varier, parce qu'il y a plusieurs, il y a beaucoup de facteurs en fait qui entrent en jeu pour déterminer si une affaire fait partie ou pas. Et de toute façon, les limites, on ne peut pas les tracer. Mais en tout cas, je pouvais faire des typologies d'infractions en fonction, par exemple, des lieux et repérer. Bah là, c'est typiquement pour les vols, hein, pour tous les types de vols, repérer faire une typologie des vols et voir quels étaient les espaces et les individus qui étaient les plus sanctionnés, quelles étaient donc les pratiques, pour ensuite déterminer lesquelles d'entre elles paraissaient les plus perfectionnées ou pas. Alors après coup, j'ai fait une deuxième typologie, mais que j'ai finalement pour l'instant pas tout à fait exploité, c'est s'intéresser à la question du perfectionnement de la pratique du vol, c'est-à-dire est-ce que c'est un vol plutôt astucieux ou plutôt brutal, vous voyez, ce genre de questionnement qu'on peut se poser, qui permet par exemple de repérer que sur le 19e, on voit s'accroître le nombre de vols à l'aide de fausses clés, ce qui veut dire donc probablement, sauf à supposer qu'il y a une professionnalisation des enquêteurs, hein, mais sinon ça signifie qu'il y a une diffusion d'une pratique criminelle et aussi probablement une diffusion des serrures bien fermées. Alors, c'est l'autre de la, alors, si vous voulez, progresse en même temps la sécurisation des espaces et évidemment le perfectionnement des techniques du vol. Alors, ça c'est la fin de mon diaporama, pour vous dire finalement ce que j'ai trouvé avant les années 1880 et après les années 1880. Avant les années 1880, j'ai bien un certain nombre de trafics, mais très peu importants par rapport à l'ensemble du contentieux. Malgré tout, ces trafics existent et probablement sont peu réprimés et relativement tolérés. Ce sont des contrebandes traditionnelles, soit par voie de mer, soit par voie de terre, hein, de tabac et essentiellement d'alcool. Mais il faut bien voir que la contrebande d'alcool, qui est sanctionnée, c'est surtout des fraudes à l'octroi, donc on n'est pas vraiment dans le maritime. Néanmoins, il semblerait qu'au milieu du 19e, un certain nombre de négociants se soient entendus pour frauder de façon généralisée les douanes. Hein, mais on trouve étonnamment, c'est pas très étonnant, mais on trouve peu de traces aux archives. Juste une affaire, à mon avis, un exemple a été fait pour régler la question. Sinon, l'essentiel des éléments que je repère avant 1880, ce sont des formes d'économie parallèle qui tournent autour des biens volés, qui sont de l'ordre de deux ensembles, deux types. Premièrement, ce sont des biens qui sont soustraits à des individus, donc énormément de cambriolages. Et puis, à partir des années 1850, on voit s'accroître les vols avec violence. Il faut voir que Marseille, c'est une ville où il y a peu de vols avec violence sur la voie publique avant les années 1850, sauf à supposer, encore une fois, qu'on considère qu'à l'époque, ça n'était pas réprimé, mais j'ai pas de preuves de cela, et je crois plutôt le contraire. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de vols de marchandises qui sont faits dans les domaines des négociants, ce qu'on appelle donc tous les domaines qui relèvent de l'entrepôt fictif en particulier, donc qui sont des espaces de stockage des marchandises, donc du commerce portuaire, et sur les quais. Donc vols qui sont commis sur les navires, vols qui sont commis sur les quais. Et vous êtes là donc dans une... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on observe bien l'existence de tout un ensemble de trafics qui sont commis aussi bien par des bandes organisées, mais ça c'est vraiment la minorité, la majorité ce sont des gens très pauvres, des balayeurs des quais, des vagabonds, des journaliers qui n'ont pas de travail ou qui ne travaillent pas, et qui ponctionnent une partie des marchandises qui font le grand commerce marseillais. Et donc ce qui est manifeste, et ça perdure tant que les nouveaux quais ne sont pas construits, c'est que tant qu'on est dans une situation où le port est dans la ville, sur le quai de Rive-Neuve, eh bien, le port, il a une fonction. Alors, c'est peut-être un peu excessif de dire ça. Là, vous me direz ce que vous en pensez, mais il a quand même une fonction régulatrice implicite, hein, de permettre aux plus pauvres des Marseillais de subsister, de la même manière qu'on peut voir ça dans les espaces ruraux avec les usages des communaux. Hein. On est dans le glanage, et évidemment, comme il y a une grande tolérance envers ça, manifestement, encore au début du 19e, la difficulté lorsque reprend le grand commerce maritime à partir des années 1830, 20 et 30, ça va être de réguler ces pratiques et de les empêcher. Mais là, et on est dans un problème qui perdure jusqu'aux années 1930, parce que j'ai vu que ça persistait même dans les nouveaux ports, alors je pensais que, évidemment, comme le port devient moderne et s'extrait de la ville, ce n'était plus le cas. En réalité, ce n'est pas vrai, hein. C'est-à-dire que on a toujours le problème d'espace qui devrait servir à la manutention, mais qui, d'un point de vue technique, sont toujours insuffisamment vastes, insuffisamment, techniques et pour permettre une circulation très rapide des marchandises. Et il y a toujours des individus qui sont présents sur ces quais pour voler une partie des marchandises. La seule différence que j'observe sur la longue durée, c'est que plus on va dans le temps, à partir construction des nouveaux quais, et plus ces vols ils sont commis par du personnel en fait qui travaille sur les quais, hein, parce que le port malgré tout va se fermer à cette population de miséreux, hein, de pauvres.
Je voudrais juste préciser par rapport à ça que dans le second 19e, on assiste à une plus grande poursuite de ce type de comportement, et on assiste à cela non seulement sur les quais mais aussi dans les usines. Donc c'est une période de moralisation, hein, des classes populaires pour réduire les illégalismes. Après 1880, la grande différence, c'est que on observe l'essor des trafics, et je dirais que le port y joue un rôle indirect et direct dans ces trafics. La première chose, donc, c'est que parmi ces trafics dont on observe la croissance, il y a premièrement la prostitution et deuxièmement le trafic de jeux, mais qui sont implantés localement. Alors, par rapport au jeu prohibé, je ne pense pas qu'il y ait de lien qu'on puisse faire entre la présence du port et l'industrie des jeux prohibés, hein. En revanche, par rapport à la prostitution, bien évidemment, on peut faire des liens. D'abord parce que cette prostitution, elle se développe donc dans le quartier réservé qui est à proximité du port, et dès les années 1880, cette prostitution-là, elle est quand même en partie destinée à la population, des équipages des navires, même si elle ne se destine pas qu'à celle-ci, puisqu'il y a à Marseille beaucoup de migrants, beaucoup d'hommes seuls, donc évidemment il y a une clientèle populaire. Mais ce qui va se doubler à cela dans l'entre-deux-guerres, c'est que ce quartier réservé, ça devient aussi un lieu touristique. C'est-à-dire que les gens qui sont en escale à Marseille, qui viennent visiter Marseille, vont dans le quartier réservé parce que c'est un espace pittoresque de Marseille. Donc je pense qu'il y a aussi un lien qu'on peut faire de cette façon-là. L'autre élément qui est vraiment important, c'est bien évidemment le fait que la fonction d'interface du port donc se précise, et qu'on observe l'essor de trafics internationaux de femmes et de drogue, de femmes dès les années 1880, et de drogue, donc même si on observe bien évidemment que des marins font déjà de la petite contrebande d'opium avant, hein, mais pour le trafic de drogue, c'est après la loi de 1916, c'est après la guerre, donc à partir des années 20 et surtout les années 30. Donc oui, Marseille, c'est donc une porte de l'entrée d'opium en provenance de l'Extrême-Orient et de l'Orient. Cette drogue, elle est revendue sur place, ou alors elle est dirigée vers Toulon, vers Nice et vers Paris. Paris, c'est bien évidemment en France le plus gros marché de consommation. Et les réseaux qui sont les plus puissants à Marseille, ce sont des réseaux corses dans les années 30, hein, puisque le grand avantage des Corses, c'est que vous savez qu'il y a une diaspora corse depuis le début du XXe siècle. Donc d'abord, il y a des Corses en Extrême-Orient. Et puis les Corses, il y a beaucoup de Corses qui sont marins. Donc je pense que pour mettre en place des réseaux internationaux de trafic, évidemment, il y a des contacts, il y a des individus qui se font confiance. Et ces réseaux corses, la police elle-même dit qu'ils sont extrêmement communautaires. Donc, une confiance qui existe, et je pense que c'est ce qui fait évidemment la force des réseaux corses à cette période-là, fait auquel il faut ajouter que les Corses ont la nationalité française et qu'ils sont électeurs, à la différence de d'autres migrants de la première génération, et que par conséquent, ils peuvent obtenir plus facilement que d'autres des faveurs et des protections politiques. Voilà.
Je crois que l'essentiel est dit.